êtes sur Radio Orient. Merci de nous suivre. Il est tout juste midi. Le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, l'Iran persiste et signe. Le détroit d'Ormuz restera fermé et ne rouvrira que si Washington accepte l'ensemble de ses conditions. Benjamin Netanyahou confirme le rejet par Israël de la feuille de route américaine pour Gaza, pourtant acceptée par le Hamas. Une décision qui intervient sur fond d'élections législatives en Israël, de divergence avec Washington et de pression de l'extrême droite. Et puis en France, 22 départements sont placés en vigilance orange canicule, tandis que l'Europe de l'Ouest vient de connaître, selon Copernicus, son début d'été le plus chaud jamais enregistré. Bonjour, l'Iran maintient le détroit d'Ormuz fermé et affirme qu'il ne le rouvrira que si Washington accepte l'ensemble de ses conditions, notamment la levée des sanctions et du blocus de ses ports. Malgré quelques échanges de messages entre les deux pays, les positions restent très éloignées, même si Donald Trump se montre optimiste. Sur le plan intérieur, les autorités iraniennes ont procédé à un changement à la tête de leur plus haute instance sécuritaire. L'ancien chef des gardiens de la révolution, Mohsen Rezaei, prend la direction du Conseil suprême de la sécurité nationale. Enfin, Téhéran réagit au pacte de défense conclu entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. L'Iran y voit le signe d'un recul de la confiance des pays de la région envers les garanties de sécurité américaines, tout en assurant ne pas considérer cet accord comme dirigé contre lui. Pas de solution en vue pour Gaza. Israël vient de rejeter officiellement le plan américain pour mettre fin au conflit. Un plan que le Hamas avait de son côté accepté. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait déjà exprimé ces derniers jours de fortes réserves sur le texte. Il en annonce désormais clairement le rejet sous la pression de ses alliés d'extrême droite, alors qu'approchent des élections législatives qui s'annoncent délicates pour le gouvernement israélien. Les précisions d'Inès Gilles.
Et oui Nadia, l'avenir de Gaza est dans l'impasse. Benjamin Netanyahou avait déjà émis des doutes il y a quelques jours, mais c'est aujourd'hui confirmé. Israël rejette le plan américain. Une décision qui sonne comme un camouflet pour Donald Trump, car ce plan aurait permis de faire avancer la situation à Gaza. Il prévoyait la fin des opérations militaires des deux côtés et le désarmement du Hamas, de pair avec un retrait progressif d'Israël. Israël, qui contrôle encore plus de 60% du territoire palestinien. Le texte avait été accepté par le Hamas. Ce dimanche, le mouvement palestinien a demandé à Washington de faire pression sur le premier ministre israélien. Face aux inquiétudes israéliennes, le haut représentant du Conseil de la paix pour Gaza, Nikolaï Mladenov, avait assuré la semaine dernière qu'Israël ne se retirerait qu'après un désarmement complet du Hamas. Mais cela n'a pas suffi à rallier la partie israélienne. Benjamin Netanyahou, en mauvaise posture dans les sondages pour les élections législatives d'octobre prochain, face à Gadi Eisenkot, leader de l'opposition. Il est donc sous pression de ses alliés d'extrême droite. Ceux-ci refusent fermement le plan américain pour Gaza et sont même favorables à une recolonisation de l'enclave palestinienne. Le plan américain pour Gaza est pourtant la seule voie à suivre pour éviter une attaque similaire à celle du 7 octobre, a estimé Nikolaï Mladenov. Les négociations ne sont cependant pas au point mort. Benjamin Netanyahou a fait état de discussions avec les États-Unis sur les objections israéliennes, affirmant que le Hamas doit renoncer à toutes ses armes.
Merci Inès pour ces précisions sur le terrain. La tension persiste. En Cisjordanie, l'armée israélienne a déclaré le village chrétien de Taïbé zone militaire fermée pour les non-résidents israéliens, affirmant vouloir empêcher de nouvelles attaques de colons contre les Palestiniens. Cette décision intervient après plusieurs violences dans le secteur. Un récent rapport de l'ONU accuse les autorités israéliennes d'être directement impliquées dans ces attaques, une accusation rejetée par Israël. Un éboulement dans la mine d'or de Soukhari, la plus importante d'Égypte, a fait un mort et 5 blessés. Les autorités ont suspendu les opérations dans la zone concernée et ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Une attaque ukrainienne de drones a fait au moins 13 morts et une quarantaine de blessés à Nizhny-Kamsk, au Tatarstan. Selon les autorités russes, la frappe a visé des sites industriels et civils à plus de 1000 km de la frontière ukrainienne. Moscou affirme par ailleurs avoir abattu 456 drones ukrainiens dans la nuit. Les incendies continuent de mobiliser d'importants moyens en Europe sur fond de chaleur et de sécheresse. En Grèce, d'abord, un nouvel incendie s'est déclaré ce matin au sud-est d'Athènes, attisé par des vents violents. Plus de 170 pompiers d'importants moyens aériens sont déployés, tandis qu'un village a été évacué par précaution. Le pays reste en alerte maximale face au risque de nouveaux départs de feu. En France, la situation reste également sous surveillance dans la Drôme. Le feu qui ravage le massif du Clep a déjà détruit 370 hectares. Plus de 400 pompiers sont mobilisés et les habitants de Charents ont été invités à se confiner en raison des fumées. En Lozère, cette fois, un autre incendie a parcouru plus de 150 hectares. Une vingtaine d'habitations ont été évacuées. Le feu a finalement été fixé ce matin vers 8 heures. Ces incendies surviennent alors que la canicule s'intensifie. 22 départements seront placés en vigilance orange ce lundi avant une nouvelle hausse des températures dès mardi. Jusqu'à 39 degrés sont attendus dans le sud avec un pic de chaleur prévu au milieu de la semaine. Un épisode exceptionnel qui s'inscrit dans une tendance plus large. Selon l'observatoire européen Copernicus, l'Europe de l'Ouest vient de connaître son début d'été le plus chaud jamais enregistré. Les vagues de chaleur ont aggravé la sécheresse et favorisé les incendies, tandis que le changement climatique pourrait encore conduire à de nouveaux records dans les prochains mois. En France, toujours 5 policiers ont été légèrement blessés près de Perpignan lors d'un carambolage provoqué par un automobiliste ayant refusé un contrôle routier après une course-poursuite. Le conducteur a brusquement freiné sur une voie rapide, entraînant la collision de deux véhicules de police. Le suspect est toujours en fuite. Sport pour finir, football d'abord. Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN féminine en battant l'Afrique du Sud de 2-1 samedi à Rabat, décrochant au passage son billet pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil. Les Lions de l'Atlas affronteront le Cameroun pour une place en finale, tandis que l'Algérie, également qualifiée pour le Mondial après son succès contre la Côte d'Ivoire, sera opposée au Malawi. Le Marocain Imad Bouchaïb a remporté la médaille d'or du 800 mètres aux Mondiaux d'athlétisme U20 à Eugene aux États-Unis en s'imposant en 1 minute 44 secondes 64 centièmes. À 19 ans, il offre au Maroc son premier titre mondial junior sur la distance depuis 22 ans et confirme son statut de grand espoir de l'athlétisme marocain. Et puis cyclisme, la néerlandaise Demi Vollering a remporté son deuxième tour de France femme après une démonstration de force dans la dernière étape à Nice. On en revient à la France. Une vingtaine d'associations d'Île-de-France alertent le gouvernement sur la réduction des places d'hébergement d'urgence et les coupes budgétaires qui menacent leur structure. Elles ont adressé fin juillet une lettre au ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Parmi elles, Emmaüs Solidarité. Son directeur général, Lotfi Ouanézar, revient sur cette alerte au micro de Radio Orient.
Le collectif des associations, nous demandons donc au ministre du Logement d'abord de revenir sur les baisses annoncées. Ce sont des baisses qui concernent la veille sociale, mais surtout l'hébergement d'urgence à Paris. Donc des coupes qui peuvent aller parfois jusqu'à 10% des budgets. C'est aussi un courrier, un appel pour l'alerter sur la situation actuelle, qui est très connue d'ailleurs, hein, qui n'est pas une nouveauté, puisque nous avons de plus en plus de personnes qui se présentent à nos permanences, qui nous sollicitent et qui ne trouvent pas de solution. Et donc, c'est un peu des injonctions paradoxales. Comment faire plus avec moins ? Et c'est l'objet de notre courrier, de l'alerter, de lui demander de revenir sur ses coupes budgétaires et qu'on puisse travailler dans des conditions adaptées à la situation qui est quand même, il faut le dire, catastrophique. Malheureusement, donc, il y a un décalage entre les besoins sociaux qui ont explosé et l'offre qui, malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années, cette offre-là reste insuffisante et ne répond pas aux besoins. Donc si le gouvernement, si le Premier ministre, si le ministre du Logement ne décide pas de prendre le sujet à bras-le-corps, il va y avoir encore davantage de décès, il va y avoir encore de mobilisation. D'ailleurs, la mobilisation, elle gagne tout le pays, hein, elle n'est pas uniquement à Paris. Il y a des associations partout, dont toutes les villes, qui commencent à alerter, à s'organiser, à alerter sur la situation pour dire qu'il faut stopper ces coupes et que le sujet des personnes sans domicile, il faut qu'il devienne une priorité nationale.
Des propos recueillis par Inès Gilles Lotfi-Wanezar, directeur général MAE Solidarité et l'invité de Grand Angle ce lundi, et c'est après le flash de 18h. C'est la fin de cette édition. Merci à Mohamed El-Bezeri pour la réalisation. Prochaine édition en langue arabe à 12h30. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.